Info. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous. Dans moins de 10 minutes, Sportrama, tout le sport avec Nicolas Pino. Mais tout d'abord, l'actualité. La crise ukrainienne a fait l'objet d'entretiens aujourd'hui à la Maison-Blanche, à Washington, entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président Obama. L'Union européenne a de son côté décidé de retarder l'application de nouvelles sanctions aux séparatistes ukrainiens et à la Russie. Les précisions, Timothée Donangmaï.
Et lors d'une conférence de presse conjointe, le président Obama et la chancelière Merkel ont accusé la Russie de poursuivre son agression contre l'Ukraine en appuyant les séparatistes ukrainiens. Il est clair qu'ils ont violé pratiquement tous les engagements pris sous l'accord de Minsk. Au lieu de se retirer de l'est de l'Ukraine, les forces russes continuent d'y opérer, formant les séparatistes et les aidant à coordonner les attaques. Au lieu de retirer ses armes, la Russie a envoyé plus de chars, de véhicules blindés de transport de troupes et de pièces d'artillerie lourdes, a déclaré le président Obama. Le chef de l'exécutif américain a dit avoir demandé à son équipe d'examiner toutes les options, y compris celle des armes létales défensives, pour le cas où la diplomatie échouerait. Pour sa part, la chancelière Angela Merkel a fait savoir qu'elle espère qu'une solution diplomatique sera trouvée en dépit des revers, réitérant qu'elle ne voyait pas de solution militaire au conflit ukrainien. Les pays de l'Union européenne se sont entendus aujourd'hui sur de nouvelles sanctions visant 19 personnes, dont 5 Russes, ainsi que 9 organisations. Mais l'application dépendra de la situation sur le terrain, a expliqué à la presse le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius.
Merci Timothée Donangma. Et violence au Niger, un nouvel obus est tombé aujourd'hui dans un marché de la ville de Diffa. Ce marché avait déjà été la cible d'un autre obus hier. La ville de Diffa, dans le sud-est du Niger, subit depuis vendredi des attaques répétées des djihadistes. Idriss Fall a joint sur place Adam Babokarna, un habitant de Diffa.
Hier tard dans la nuit, il y a eu une attaque d'éléments de Boko Haram à la prison qui vit de Diffa. L'attaque a été refusée par les forces de défense et de sécurité qui se trouvent au niveau de prison, sur la prison de Diffa. Le bilan est de 2 morts côté assaillant et 1 côté des forces de défense et de sécurité.
Et dans le même temps, il y a eu une attaque hier dimanche à Diffa aussi.
Oui, hier il y a une explosion, même le mal, qui a fait au moins 1 mort et un blessé.
Est-ce que c'était un kamikaze ou un obus qui est tombé en centre-ville?
Non, c'est un obus, c'est pas un kamikaze, c'est pas un kamikaze.
Et dans le même temps, vendredi aussi, il y a eu une autre attaque.
Oui, vendredi, il y a eu à Diffa et à Bosso. Bon, le bilan, c'est au niveau de Bosso, il y a eu 106 assaillants qui ont été tués contre 2 éléments de force de défense de sécurité.
Adam Babokarna, un habitant de Diffa au Niger. C'est dans ce contexte de violence qu'à Niamey, le Parlement discute de l'envoi de soldats nigériens pour combattre Boko Haram au Nigeria. Notez aussi qu'Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, s'est moqué de la mise en place d'une force régionale dans une vidéo publiée aujourd'hui. Rappelons que les troupes tchadiennes, camerounaises et nigériennes prêtent main forte à l'armée nigériane. Nouveaux affrontements dans le nord du Mali, ces heurts ont opposé des groupes armés rivaux non loin de Tessalit. Le MNLA accuse l'armée malienne de combattre aux côtés du Gassia, mais Bamako dément catégoriquement.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Gabon, grève peu suivie dans l'administration publique ce lundi. Les syndicats de la fonction publique avaient appelé à une grève générale, mais selon Fridolin Ndé Messa, le président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée du Gabon, c'est seulement le secteur de l'enseignement secondaire qui a été perturbé. Il affirme aussi que des négociations sont en cours avec le gouvernement.
Il se trouve que le Premier ministre a convié à une réunion pour que la situation soit décantée le plus rapidement possible. Les travailleurs, dans leur ensemble, demandent l'amélioration de leur traitement, c'est-à-dire la valorisation du point d'indice et du SMIG, l'adoption d'un nouveau code du travail et la négociation des conventions collectives dans le privé. Donc voilà les principales revendications qui sont posées sur la table, sans oublier le problème de prise en charge des fonctionnaires dans leur ensemble concernant la situation des hôpitaux. Libreville et de tout le Gabon. Nous ne voulons pas rester dans la crise, mais nous voulons que les choses bougent et bougent dans le plus rapidement possible, dans le bon sens et pour le bien des travailleurs dans leur ensemble. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on décide de rentrer en grève. On sent que l'administration traîne le pas et nous voulons amener le gouvernement à agir rapidement. C'est pourquoi nous déclenchons souvent des mouvements de grève.
Fridolin Ndemessa, président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée du Gabon. Grève des gardes pénitentiaires en Côte d'Ivoire. L'armée et la police ont pris le contrôle des prisons aujourd'hui. C'est ce qu'indique l'AFP. La mesure intervient au lendemain du désarmement des gardiens de prison qui réclamaient de meilleurs salaires. Colère à Conakry suite à l'interpellation d'un imam hier pour avoir pratiqué des rites funéraires sur une possible victime d'Ebola. Des manifestants qui ont érigé des barricades et brûlé des pneus se sont affrontés avec les forces de l'ordre qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène et de matraques. L'AFP compte une douzaine de blessés. Toujours en Guinée, plusieurs organisations de la société civile ont appelé à faire la lumière sur le meurtre la semaine dernière d'un ministre de la Transition en 2010, Thierno Alioune Diaouné, assassiné à Conakry par des inconnus et inhumé ce lundi. Plus de 2,5 millions de Sud-Soudanais menacés par la famine. Les Nations Unies, qui estiment avoir besoin de 1,8 milliard de dollars pour leur venir en aide, appellent aux dons d'après l'AFP. Et près de 80 personnes, pour la plupart en fuite, sont jugées en Tunisie pour leur implication présumée dans une attaque contre l'armée en 2013 dans laquelle 8 soldats avaient été tués sur le mont Chambi à la frontière avec l'Algérie. Selon l'AFP, qui cite le parquet, le procès dont la première audience s'est tenue en décembre a été reporté au 6 avril. Seules 6 des 77 personnes poursuivies sont en détention. Une septième est jugée mais reste libre. Et puis plus de 20 migrants sont morts de froid sur une embarcation qui a été secourue dans la nuit de dimanche à lundi par des gardes-côtes italiens. Selon les médias italiens, le total des morts pourrait atteindre de 25 à 27 migrants.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La vedette béninoise Angélique Kidjo a remporté dimanche son second Grammy, récompensant le meilleur album de musique du monde pour Eve, qu'elle a dédié aux femmes d'Afrique. Cette 57e cérémonie des Grammy Awards, diffusée sur la chaîne CBS, s'est déroulée au Staples Center à Los Angeles, un événement marqué par plusieurs prises de position d'artistes contre le racisme et la violence conjugale aux États-Unis. Jacques Aristide.
L'Afrique à l'honneur par la voix d'Angélique Kidjo. Après Jin Jin en 2007, la béninoise, l'une des voix les plus connues du continent africain, a donc de nouveau décroché le trophée pour le meilleur album dans la catégorie musique du monde. Une catégorie difficile où était également en compétition le chanteur brésilien vedette Sergio Mendes. Pour Eve, Angélique est retournée au Bénin pour capter les rythmes et harmonies des chœurs de femmes. Et en recevant son prix, c'était tout naturel pour elle de le dédier, dit-elle, aux femmes d'Afrique, à leur beauté et leur résilience. Angélique Kidjo.
Nous ne devons pas catégoriser la musique. Elle doit être tout simplement musique. Simple, claire, parce que c'est une langue universelle. Si nous pouvons faire de la musique classique avec le hip-hop, avec n'importe quel genre de musique, comment pouvons-nous continuer à dire que la diversité musicale doit être coupée en petits morceaux ?
Un autre Africain a été récompensé lors de ces Grammy Awards, le compositeur sud-africain Wouter Kellerman, pour le meilleur album de la musique New Age. Mais le grand vainqueur de la soirée n'est autre qu'un nouveau venu, le jeune chanteur anglais de 22 ans, Sam Smith, qui a décroché 4 prix. Son tube « Stay With Me » a notamment été sacré chanson de l'année.
Sam Smith.
Voilà, merci Jacques Aristide. D'Afghanistan, un militant influent dans la province d'Helmand a été tué aujourd'hui dans une frappe de drone. Mola Abdou Raouf, un ancien détenu de Guantanamo, et 5 autres militants ont trouvé la mort alors qu'ils circulaient en voiture. Les autorités afghanes n'ont pas fourni d'autres précisions. Selon des rapports de presse, Raouf, qui est revenu en Afghanistan en 2007, avait commencé à recruter des combattants pour l'État islamique. Ouverture du G20 à Istanbul en Turquie, les ministres des Finances et représentants des banques centrales des 20 pays les plus riches vont tenter de coordonner des mesures visant à stimuler la croissance économique mondiale. Les participants feront notamment le point sur les engagements pris l'année dernière pour augmenter la production mondiale de 2%, de 200% en 2018. La rencontre va se poursuivre demain. Et puis au Yémen, les négociations visant à résoudre la crise politique ont repris aujourd'hui sous les auspices de l'ONU.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama, spéciale Cannes évidemment, la dernière concernant cette Coupe d'Afrique des Nations sur VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous laisser vos numéros sur la page Facebook, mais également composer le 001 202 619 31 40. Avec nous ce soir, pour en parler, nos consultants, il revient fraîchement de Guinée équatoriale, il parle toujours espagnol, c'est Thierry Kambundji de Top Congo à Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de Sporama.
On va également saluer Jules Valentangoué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et c'est la fête à Abidjan. Roger Stéphane C, bonsoir.
Bonsoir Nicolas et à quoi va Abidjan?
Ouais, la nuit a été courte évidemment, il a des petits yeux notre ami Roger Stéphane à Abidjan. On va évidemment revenir sur cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations glanée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Évidemment hier c'était cette finale à Bata 0-0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Il a fallu aller au tir au but. Évidemment les Ghanéens vont s'en mordre les doigts après avoir touché par deux fois le poteau lors du temps réglementaire. Et puis Copa Barry évidemment, celui dont tout le monde parle à Abidjan, Copa Barry, le gardien des Ivoiriens. Il a eu des crampes ou il en a pas eu. En tout cas, il s'est effondré avant, évidemment, de tirer son penalty. Et finalement, il a réussi à transformer le penalty et à offrir cette Coupe d'Afrique des Nations. On va prendre Roger Stéphane, c'est à Abidjan. Les éléphants sont passés par le palais présidentiel. Ils se dirigent actuellement vers le stade Oufouet-Boigny pour recevoir un accueil. Quelle est l'ambiance, tout simplement, à Abidjan, Roger Stéphane?
Mais l'ambiance est festive, hein, ambiance des grands jours par rapport donc au succès des éléphants de Côte d'Ivoire. Comme vous dites, il y a environ 2 heures qu'ils sont arrivés au stade de Félix Houphouët-Boigny, entrée triomphale avec le chef de l'État, qui avait dans les mains le trophée, le capitaine Yaya Touré, dans sa voiture de commandement. Eh bien, c'est au stade Félix Houphouët-Boigny qu'il y a eu les premiers mots du chef de l'État. Merci pour tout, merci Yaya, merci Copa. Nous sommes fiers de vous, la Côte d'Ivoire est fière de vous. Eh bien, le chef de l'État a remis, Yaya a remis le trophée au chef de l'État, et puis lui-même l'a remis ensuite au président de la Fédération Sidi Diallo. Et puis après, il y a eu de la musique, de l'ambiance. L'ambiance se poursuit en ce moment. Le chef de l'État a quitté le stade pour retourner au palais. Eh bien, les joueurs sont encore là avec toute la grosse ambiance qui est présente en ce moment au stade de Félix Houphouët-Boigny. Cela a commencé depuis le matin. Cela a commencé à 14h avec l'arrivée des éléphants. Et cela s'est poursuivi tout au long du parcours de Port-Boué à la commune du Plateau, se trouve le stade Félix Houphouët-Boigny. Ambiance exceptionnelle qui a vu toute la mobilisation des Ivoiriens autour de cette équipe nationale après le sac continental.
Ouais, Thierry Kambundji à Kinshasa, évidemment, vous avez suivi ces Ivoiriens. C'est un beau champion selon vous?
Eh oui, hein, c'est un bon champion, c'est un champion qui le mérite, même si sur l'ensemble de cette 35e finale de Coupe des Nations, vous l'avez dit, hein, ce sont les Black Stars du Ghana qui avaient légèrement dominé, surtout en termes d'occasion, mais ça s'est joué au tir au but. On a encore relevé ce qu'on a dit il y a 2 jours, hein, la rigueur défensive des deux côtés, notamment du côté ivoirien, qui a empêché à l'armada offensif ghanéen de faire la différence. Ça s'est joué au tir au but et c'était une histoire de gardien des buts, décidément, lors de la petite finale. C'était Robert Kidiaba et hier, lors de la finale, c'était Copa Barry. Bravo aux Ivoiriens qui ont largement mérité de remporter cette canne.
Et oui, Jules Valentangoué, et donc c'est toujours la disette pour les Ghanéens. Le dernier trophée date de 1982, hein, c'était évidemment en Libye, ça ne nous rajeunit pas. Et malheureusement, malgré le talent, hein, il y a toujours énormément de talent dans cette équipe des Black Stars. Pour le moment, toujours pas de trophée malgré cette régularité. On le redit, hein, 5 demi-finales d'affilée et toujours pas de titre.
Oui, des demi-finales, mais aussi des finales. Et c'est le plus souvent, c'est dans les grandes compétitions actuelles, on a remarqué que les favoris et arrivent difficilement à gagner. Ce sont les équipes qu'on n'attend pas, les outsiders qui finalement soulèvent le trophée. Et c'est ce qui joue un peu un tour au Ghana, qui est régulièrement favori et qui, en fin de compte, au dernier moment, lâche prise. Et donc, et le plus curieux également, c'est que le Ghana est, après le Cameroun, la bête noire de la Côte d'Ivoire en termes de victoires franches. Et finalement, c'est sur des matchs très importants comme des finales de la CAN et où il faut que le Ghana perde au tir au but. Donc c'est vraiment une véritable malédiction.
Merci beaucoup Jules Valentin. On va prendre un premier auditeur en ligne. Il s'agit de Joseph. Il est à Abidjan. Bonsoir Joseph.
Bonsoir Nicolas.
Alors Joseph, évidemment c'est la joie, mais vous, vous vouliez revenir évidemment sur l'arbitrage. On a beaucoup parlé de certaines décisions lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous vouliez parler de cet arbitrage selon vous.
Oui.
Allez-y, c'est à vous.
En effet, l'arbitrage de la CAN de cette année m'a beaucoup déçu. Je ne suis pas beaucoup fier de cet arbitrage. Je n'en veux pas aux arbitres. J'en veux surtout à la CAF. Surtout au président M. Issa Hayatou. Excusez-moi de mes mots, mais je vais vous dire, M. Issa Hayatou n'est pas fondateur de la CAF.
Eh oui, ça...
La CAF a été une organisation stricte et respectueuse. Je suis désolé. Mais dites à M. Issa Hayatou que cette année-là, qu'il quitte la CAF.
Eh oui, Issa Hayatou, Joseph, Issa Hayatou. Eh oui, puisque Issa Hayatou est là depuis 1988, Joseph. On va poser la question évidemment à notre ami Thierry Kamboundi. Thierry, évidemment, les erreurs d'arbitrage, il y en a dans chaque compétition. Tout le monde a évidemment en tête ce quart de finale entre la Tunisie et la Guinée équatoriale.
Ah oui, justement, on garde tous en mémoire ces images impressionnantes des vagues de Carthage de la Tunisie qui s'étaient déchaînées sur l'arbitre mauritanien qui officiait ce match autour de ce pénalty très contesté accordé au Nzaran Jelal de la Guinée équatoriale. Mais à mon avis, des erreurs d'arbitrage, il y en a eu lors de cette CAN, lors de la précédente CAN, et même lors de la Coupe du Monde de football, il y a une marge, franchement, il y a beaucoup d'améliorations qui doivent être apportées à l'arbitrage africain, même si je pense quand même que Papa Kassam hier a été très bon.
Excellent.
Sur cette finale.
Excellent, Thierry Kamboundi, évidemment, excellent, l'arbitre de cette finale, qui n'a rien laissé passer, tout dans la mesure, justement, ça fait plaisir. Jules Valentango, évidemment, vous êtes la Bible de cette émission. On le disait, Issa Hayatou qui est là depuis 1988, ça fait une éternité, quasiment 30 ans à la tête du football africain. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer la main?
Oui, bien sûr, on le dit, mais lui, il a comme argument souvent que Tessema est mort là, et, disons son prédécesseur, l'Éthiopien Tessema, oui, et c'est... que son aîné et à la FIFA, Blatter est toujours en place et il veut continuer. Donc finalement, c'est pas tellement propre à l'Afrique. C'est que dans les aires de pouvoir en général, il est difficile de lâcher prise.
Merci beaucoup. Avec les grenouilles qui sont sorties à Libreville, on les entend derrière vous, Jules Valentin. On va prendre la direction du Mali, Kanadjigila. On va retrouver Simon Pierre. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Simon, vous êtes malien, évidemment, déçu par la prestation des Aigles du Mali. Mais vous me disiez avant l'émission que vous étiez content, évidemment, pour cette équipe ivoirienne.
Oui, vraiment, j'étais très content. Depuis l'autre jour, le vendredi passé, j'avais dit vraiment les matchs qui étaient passés là, les matchs ivoiriens, vraiment c'était très 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 bien. Depuis des années passées, je sais qu'ils jouaient, maintenant ils ont changé des pas. Et il y avait des vrais pas, des bons pas qu'ils jouaient cette année. Et on avait vraiment espéré sur eux qu'ils vont gagner. C'est pour cette raison que j'ai dit la fois passée que l'Ivoire va remporter la Coupe d'Afrique 2015. C'est pour cette raison que j'ai dit que je suis très content. Et je remercie vraiment Nicolas d'abord. Je remercie Copa et Touré aussi. Yeah.
Eh ben, on va tous se remercier. Merci beaucoup. On va retourner à Abidjan, évidemment, Roger Stéphancé. Alors, on va surtout saluer, évidemment, celui que certains surnomment déjà le sorcier blanc, surnom emprunté à évidemment, Claude Leroy. C'est évidemment Hervé Renard. Deuxième Coupe d'Afrique des Nations en 3 ans après celle obtenue avec les Chipolopolo de Zambie, finalement. Est-ce que la méthode, finalement, Hervé Renard, est-ce qu'elle explique tout dans ce changement des Ivoiriens qui, enfin, réussissent à gagner après 23 ans, est-ce que seul Hervé Renard peut expliquer ce succès de la Côte d'Ivoire, selon vous?
C'est l'un des éléments. La méthode Hervé Renard est l'un des éléments. Cet entraîneur est arrivé environ 6 mois. Il est quelque peu hésitant avec les mauvais résultats. Une qualification difficile après les éliminatoires, des matchs amicaux très peu convaincants. Et puis arrive cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le premier match face à la Guinée est difficile. Il y a le match contre le Mali, surtout l'expulsion de Gervinho qui donne une idée magistrale à Hervé Renard, celle de modifier son système de jeu. Alors, il laisse le traditionnel 4-3-3, pour un 3-5-2, mais vraiment révolutionnaire, dans lequel toute l'équipe et tous les joueurs se retrouvent. Et puis depuis la Côte d'Ivoire déroule, c'est solide face au Cameroun 1-0, c'est convaincant face à l'Algérie 3-1, ça rassure face à la RDC 3-1, et puis en finale, c'est dominé, mais ça ne prend pas de but. Oui, Averena a trouvé la solution au problème défensif qu'avait cette équipe ivoirienne. Et puis devant, il y a les flèches, j'ai dit non, autour de Bonny Wilfried. Averena a convaincu, on l'avait tous décrié à un certain moment, mais là, après la Coupe d'Afrique des Nations de football, il est à félicité, nous sommes tous prêts à lui rendre hommage. Il a été énorme dans cette compétition, le technicien français.
Oui, j'ai quand même des réserves, moi, parce que sur la CAN, évidemment, sur cette finale, le Ghana a été excellent. Et je pense qu'Hervé Renard aurait été crucifié s'il n'avait pas gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que finalement, Thierry Kamboundi, c'est pas un peu ça aussi? On est au petit bonheur la chance, hein, avec ses tirs au but, finalement. Puisque les Ivoiriens ont peiné, on l'a dit, dans cette entrée de compétition. Et si le Ghana avait gagné, ça aurait également fait un grand champion. Est-ce que finalement, c'est pas ça la difficulté de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas totalement rassuré et imposé sa marque lors de cette compétition? Compétition. Thierry Kamboundi.
Oui, Nicolas, vous m'entendez?
On vous écoute, oui.
Allô? Justement, je disais que la chance joue toujours dans le football. Hein. On parlait justement il y a deux jours de cette pacte d'Hervé Renard au sein de cette équipe ivoirienne, avec de la rigueur défensive qu'il a réussi à apporter, l'efficacité qui a pris la place du beau jeu, les éléphants qui hier étaient l'équipe du Brésil, d'Afrique pratiquement, avec toutes ses stars, avec le ballon qui circulait très bien. Aujourd'hui, on a laissé place à l'efficacité, bien défendre et aller très vite en contre-attaque, ça a payé. Il faut saluer surtout la performance des joueurs qui ont en élastique de temps très très court maîtrisé cette nouvelle tactique d'Hervé Renard, qui a apporté du fruit et qui a su contenir l'armada offensive des Black Stars du Ghana.
Et on va poursuivre cette émission Sporama sur VOA Afrique. Et sur le podium de cette CAN, évidemment, on retrouve la RDC qui termine troisième après la victoire, là encore au tir au but dans la petite finale face à la Guinée équatoriale. Javier Balboa et Mbélé ont raté leur tir au but pour la Guinée. Grosse satisfaction, on écoute Florent Ibengué, le sélectionneur de la RDC.
C'était pas un match, le plus beau match qu'on ait pu faire. Je crois que mentalement, que ce soit nous l'équipe de Guinée, on était déçus de ne pas atteindre la finale. Et quand c'est comme ça, ça donne pas un grand match. Donc c'était un peu le cas, mais on a réussi justement. On voulait mettre du rythme parce qu'on savait qu'ils avaient eu une journée de moins de récupération. Mais malheureusement, on n'a pas su le faire. Donc ça a donné ce match un petit peu difficile à vivre du banc de touche. On a eu un objectif, on a un projet pour gagner en 2017 ou 2019. Donc fatalement, il y a des gens qui arrêtent et de nouveaux qui vont arriver. C'est ça la dynamique d'un groupe, justement, il faut qu'il y ait du mouvement. Il y en a qui vont arriver, on va regarder tranquillement pour pouvoir avancer avec la base de ce groupe.
Voilà, Florent Ibengué, le sélectionneur de la RDC, au micro de Thierry Kamboundi, qui était encore à Malabo, c'était il y a quelques jours évidemment. Jules Valentin Gouel à la RDC finalement, hein, c'est vrai qu'il y a la déception de ne pas aller en finale, mais pour une première demi-finale depuis 1998, bravo, belle prestation pour les Léopards, on le dit et on le rappelle, entraîné par un sélectionneur local. Hein.
Oui, et il faut dire que c'est une sélection qui était très plaisante. Moi, des joueurs comme Boulassier, je ne les ai pas connus à ce niveau, mais franchement, c'est des vrais artistes sur le terrain. On est habitué à voir une RDC qui compte, qui est rugueuse, mais là, c'était des artistes qui ont plu et on aurait aimé que leur aventure continue. Mais c'est déjà quelque chose qui soit arrivé en demi-finale. Je crois que d'ici une ou deux CAN, on entendra parler de la RDC.
Eh oui, Thierry Kamboundi, il le disait d'ailleurs, hein, évidemment, Florent Ibengué, il donne déjà rendez-vous, hein, les CAN 2017-2019, où finalement ce groupe, hein, pourrait montrer d'encore plus belles choses. Hein.
L'objectif de Florent Ibengué, c'était de préparer 2017 à travers cette Coupe des Nations de football. Donc la troisième place, ce n'est que du bonus pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Florent Ibengué l'a dit, il l'a répété, et les résultats portés sont très très satisfaisants. D'ailleurs, les Léopards ont été bien accueillis à leur retour hier à Kinshasa. Un carnaval a été organisé, un concert au Palais du Peuple, là où siège même le Parlement de la RDC a été donné, animé par un grand artistes du pays, Noël Ndiama, Makanda, Werrason. Aujourd'hui, c'était pas mal de sollicitations pour les Léopards à travers plusieurs sponsors qui voulaient voir les supporters, qui voulaient faire des photos avec leur star couronnée de médailles de bronze. C'est ce soir que les contingents européens composés pour la Chine, Youssouf Mounoumbou et consorts est rentré en Europe. Et les joueurs locaux vont devoir regagner leur club respectif car le championnat reprend déjà ce week-end. Mais franchement, les Congolais ont dans l'ensemble salué cette troisième place des Léopards de la RDC qui était, il faut le dire, inattendue.
Inattendue, on va partir à Johannesburg en Afrique du Sud retrouver un supporter des Léopards, c'est Bwanangela. Bonsoir.
Ah, bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette troisième place de la RDC?
En tout cas, premièrement, je remercie Flo Iben comme coach. Et nous avions eu Claude Leroy comme coach pendant longtemps. Il n'a rien fait. Mais Claude Leroy, Flo Iben, pour la première fois, il nous a fait cette troisième place. Pour nous, c'était incroyable, mais c'est une réalité. En tout cas, nous sommes très contents.
Merci beaucoup, Bwanangela, d'avoir été avec nous depuis l'Afrique du Sud. On va prendre autre direction, Nouakchott. On va retrouver Oumar Ba. Bonsoir, Oumar.
Bonsoir.
Alors Oumar, vous vouliez revenir sur l'organisation de cette CAN. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations?
Bon, je trouve que cette 30e Coupe d'Afrique des Nations, ça a été bien organisé. Qu'est-ce que je voulais souligner? C'est une erreur d'arbitrage sur le match Guinée-Tunisie.
Oui.
Et de là-bas, on voit un arbitre siffler à 100% en faveur de la Guinée. Un pénalty qui n'existe même pas.
Eh oui, évidemment.
Ça, c'est une bonne organisation. Voilà.
Eh oui, on le rappelle. Merci beaucoup, Oumar, de nous avoir appelé, évidemment, depuis Nouakchott. On le rappelle, Jules Valentingo, évidemment, que cette CAN a été organisée en moins de 2 mois, évidemment, pour venir en supplément du Maroc qui s'était désisté. Jules Valentin, quel est votre avis sur les très dures sanctions de la CAF qui suspend le Maroc jusqu'en 2021, qui menace de suspendre la Tunisie de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que, selon vous, c'est trop, finalement? Est-ce que la CAF tape trop fort du poing sur la table?
Oui, il faut dire que la CAF n'est pas souvent très tendre dans cette situation, mais on était là face à un qui tout double, où l'organisation échouait en Guinée, et c'est la Guinée qui occupait, alors l'épidémie Ebola entrait en Guinée et tout le monde donnait raison au Maroc, ou alors ça marchait, et finalement c'est le Maroc qui allait prendre les coups. Bon, mais les coups sont assez sévères, il faut l'avouer, une CAN de suspension aurait suffi.
Et on va prendre un autre appel, Ouagadougou, Richard Zongo, bonsoir.
Oui.
Allez-y, oui, Richard, bonsoir. C'est à vous. Vous vouliez parler de cette CAN également. Hein. Voilà, Richard.
Je voudrais dire un mot aussi. La CAN de 2025 est finie en Guinée équatoriale. Il faut dire que le jeu, c'est égalité. Et on a eu une belle finale qui s'est disputée entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et il y avait du beau spectacle. Mais ce que je déplore dans cette CAN.
Merci beaucoup, Richard, de nous avoir appelé, évidemment, depuis Ouagadougou. On va avoir laissé le dernier mot au champion. On va féliciter encore une fois Roger Stéphane à Abidjan. Quelle est la prochaine étape, selon vous? Est-ce qu'on n'a pas aussi une pensée ce soir pour Didier Drogba, qui malheureusement n'aura jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations?
Oui, pour lui, Didier Drogba, mais aussi pour Zokora Didier Maestro, pour Ebou Emmanuel, tous ceux qui ont commencé la superbe aventure depuis 2004, qui ont perdu la finale de 2006, qui ont perdu celle de 2012. Oui, on a une pensée pour eux, mais une pensée pour tous ceux qui accompagnaient cette équipe. Voilà, aujourd'hui, c'est l'heure des félicitations, les présidents des clubs, les présidents de la Fédération Ivoirienne de Football, tous les acteurs du football ivoirien. Eh bien, c'est le moment des félicitations, des récompenses, après donc l'effort, les récompenses. Et donc, à ce sujet, d'ailleurs, une cérémonie de décoration est prévue demain pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vraiment à cette cérémonie, on verra les annonces qui seront faites par rapport aux récompenses et aux prix, aux récompenses.
Merci beaucoup, Roger Stéphane. Roger Stéphane, on va... Merci, Roger Stéphane. On va évidemment, ainsi s'achève ce Sporama. On va remercier Thierry Kamboundi à Kinshasa. Bonsoir, Thierry.
Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous.
On va remercier également Jules Valentingoué à Libreville. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Nicolas, et à très bientôt.
Et on va remercier Roger Stéphane C à Abidjan. Bonsoir.
Bonsoir, Nicolas.
Et on va tous vous remercier. On va remercier évidemment à la mise en onde Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. Nicolas Pineau était à la présentation. On va vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Ainsi s'achève cette Coupe d'Afrique des Nations, 30e d'Ounou. À très vite sur VOA Afrique.